Je voudrais vous présenter quelques considérations à mi-chemin entre l'histoire des sciences, la biologie et l'incompétence, parce que ce n'est pas vraiment que mon domaine dont il s'agit, sur l'émergence de la notion de coopération et la façon dont ça s'est fait difficilement, la coopération biologique, la façon dont elle a difficilement émergé comme concept ou comme mécanisme entre d'autres mécanismes d'interaction. Alors, d'abord, le processus, il est tardif. On n'est qu'à la fin du 19e siècle quand on commence réellement à parler de coopération. Parce que ça en prenait. C'est difficile de ne pas repérer qu'il y a des animaux qui mangent d'autres animaux, qui mangent des plantes. C'est difficile de ne pas repérer la maladie et les interactions négatives. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas ne pas s'en apercevoir. Et elles vont structurer l'émergence, par exemple, de la théorie darwinienne de l'évolution avec cette idée que chaque espèce, même là où elle est abondante, est constamment soumise à des destructions de ses ennemis et de ses compétiteurs. Voilà, c'est écrit là. La compétition, cette interaction réciproquement négative pour les protagonistes, et tout ce qui est, bon, prédation, parasitisme, cette interaction qui est positive pour les uns, ceux qui en profitent, et négative pour ceux qui en sont les victimes, ces interactions moins-moins et plus-moins, eh ben, elles sont bien connues, et en 1859, vous voyez, on est capable de faire une théorie basée sur les conséquences que ça a sur le vivant. C'est pourtant un peu plus tard que vont émerger l'idée qu'il y a d'autres interactions. Alors là, je vous montre une interaction que vous connaissez, c'est le poisson de coude et la limonade de mer. Alors cette interaction-là est assez complexe sous des dehors très simples. Bon, le poisson est évidemment protégé par les tentacules qui sont urticants, mais pas pour lui, parce qu'il a un mucilage particulier qui fait que pour lui, il n'a pas de problème avec ses tentacules, première chose. Deuxièmement, pour le poisson, l'autre intérêt, vous voyez que là, les plus gros se battent pour la bouche, c'est qu'ils mangent les crottes et que même ils vont les chercher jusque dans la colonne buccale, qui est aussi l'anus. Regardez, là, il y a une crotte qui va sortir, attention. Hop, elle sort et elle vient d'être mangée par un poisson. Alors, l'idée, c'est que le poisson s'alimente aussi de déchets de l'anémone, en plus de ce que lui-même va collecter par ailleurs. Et l'intérêt pour l'anémone est un tout petit peu plus compliqué. On pense souvent qu'il protège l'anémone. C'est vrai de certaines espèces de poissons clowns, mais pas toutes. En réalité, le poisson fait pipi. Et ça, ça libère de l'azote et du phosphate que l'anémone récupère. Donc, vous allez dire, pourquoi un animal a intérêt à utiliser l'urine d'un autre animal? Ben, ça devient compliqué. C'est que ces anémones ont dans leurs cellules des petites algues qui font de la photosynthèse et qui les aident à s'alimenter en leur cédant une partie de cette photosynthèse. Et elles les alimentent de leur propre urine en azote et en phosphate. Et récupérer l'urine d'un poisson, c'est avoir encore plus d'azote et de phosphate à donner à ces algues. Donc l'intérêt, vous voyez que c'est une coopération triple en fait. L'intérêt pour l'anémone, c'est que le poisson augmente la quantité de déchets azotés et phosphatés qu'on peut donner aux petites algues qui sont dans les cellules et qui complètent l'alimentation de l'anémone. Oui. En fait, comme toujours, il y a des microbes en plus. On ne les voit jamais, mais ils sont là. Et là, sans les microbes, on ne comprend pas l'intérêt pour l'anémone de récolter l'urine alors qu'elle-même, elle en a. Et que, bien sûr, l'urine est un déchet du point de vue des animaux. Alors, ceci étant rangé, on voit donc qu'il y a des cas où les interactions ne sont pas complètement négatives. Ça a été remarqué par un chercheur belge, Van Beneden, qui, en 1875, produit un livre où il introduit le mot de mutualisme. Il dit que le secours entre les animaux est ainsi tout aussi varié que celui que l'on trouve parmi les hommes. Et vous allez voir qu'en réalité, il importe une vision sociopolitique des interactions entre hommes dans le champ scientifique. Entre un système complet de logement, d'alimentation, à côté des institutions philozoïques les mieux combinées. Philozoïques, c'est-à-dire les animaux qui aiment les animaux. C'est un dérivé, là, c'est un néologisme qui est fondé sur philanthropie. Mais si à côté de ces pauvres, on en voit d'autres qui se rendent mutuellement des services, il serait plus facile de les qualifier tous de parasites ou de commensaux. C'est-à-dire que les caractéristiques, les interactions qu'on connaît, parasitisme ou commensalisme, où l'un en profite et l'autre... ça ne fait rien. Ça ne suffit pas à récapituler tout ce qui se passe. Nous croyons être plus justes à leur égard et à l'égard donc de cette interaction, les appelant mutualistes. Et le mutualisme prendra sa place à côté du commensalisme et du parasitisme. Alors là, on parle d'interaction à bénéfice réciproque entre deux espèces. Et ce terme, il est très connoté sociétalement parce que en 1875, ça résonne avec des histoires socialiste, des pensées socialistes. par exemple. Le devoir mutuel, c'est une des premières mutualités qui a été fondée en 1828 entre les soyeux de Lyon et qui va être la première de toute une série de mutuelles, ou plus exactement de mutualités puis de mutualités, où des ouvriers mettent en commun des ressources. Ici, il s'agit de mettre en commun des ustensiles pour la soie, pour la fabrication de la soie, et d'acheter collectivement avec le but d'améliorer la position morale et physique des membres de ces associations de soyeux à Lyon. Donc ça, c'est la première mutuelle, il y en aura plein d'autres, et à la fin du 19e, les mutualités existent, et quelque part, c'est ce mot et cette racine qui est récupérée et qui projette la coopération entre hommes dans le champ biologique, en utilisant ce mot-là pour désigner la coopération entre espèces. Alors, on a des pensées aussi comme la pensée proudhonienne, avec le système du mutualisme, qui est un système social basé sur l'égalité, la réciprocité, la coopération et l'association volontaire en vue de la défense contre l'agression et l'agresseur. Ça, c'est une philosophie, c'est même de l'économie politique quand on lit le texte de Proudhon dans le détail. C'est aussi quelque chose qui est dans le champ sociétal et qui utilise cette racine de mutuel. Voilà. Donc, clairement, Van Beneden, et il est francophone, et il se rattache à tout un courant de pensée socialiste francophone, il réutilise un mot issu du domaine sociétal pour dire que dans le monde vivant aussi entre espèces, il y a des interactions à bénéfice réciproque. Alors, cependant, une toute autre lignée de pensée qui n'est pas du tout même inspirée d'aucun mouvement sociopolitique ou politique va se développer dans les sciences du vivant, notamment à partir de l'analyse des lichens. Les lichens, vous savez, on en a partout sur les rochers ou sur les arbres, et c'est des associations, en fait, on le sait maintenant, quand on regarde au microscope, on s'aperçoit que, bien que ça ait l'air d'être un seul organisme, il y a des algues qui donnent la couleur verdâtre, qui font la photosynthèse, et qui sont associées à des champignons qui protègent l'ensemble en donnant la forme du lichen et qui vont chercher de l'eau et des sels minéraux. Cette interaction-là, c'est vers 1866 qu'on comprend que ce qu'on appelle un lichen, en fait, dedans, il y a une algue et un champignon. Et ça va mûrir, notamment sous la plume de Debary, vers 1879, avec une conférence qu'il prononce donc, dans un congrès de European Biologie, et où il propose le terme de symbiose. Alors, on va voir que c'est pas tout à fait comme le mutualisme, on y vient tout de suite. Il propose que ce soit le vivre ensemble, bon, ça c'est l'étymologie hein, d'ailleurs, hein, le vivre ensemble, intime et durable, d'organismes de noms différents. Donc c'est une relation interspécifique. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a des organismes qui vivent ensemble durablement, voilà. Ça ne préjuge pas du tout des échanges, on ne sait pas pourquoi ils sont ensemble, est-ce qu'il y en a un qui en profite, l'autre à qui ça ne fait rien, est-ce qu'il y en a un qui parasite l'autre, ça on ne sait pas. Et puis, je vais vous le dire, en réalité, il a piqué ce terme à un scientifique moins connu qui, 2 ans avant, avait publié le terme de zumbiotismus. Je vais revenir là-dessus. Alors, dans la définition de Debary, la symbiose, c'est le fait de vivre ensemble, quelles que soient les interactions. Et d'ailleurs, il dit que l'exemple le plus connu et le plus parfait de symbiose est le parasitisme complet, c'est-à-dire l'état dans lequel un animal ou une plante naît, vit ou meurt, sur ou dans un autre organisme appartenant à une autre espèce. Donc, c'est rangé, c'est très large, mais il cite quand même Van Beneden pour dire « Et il y a des cas où... » Ben, c'est à bénéfice réciproque. Donc c'est large. Quand on remonte au vrai père du terme, puisqu'en réalité l'université de Franck était à 30 km de celle de Debary, donc il n'y a sans doute pas qu'un hasard dans le fait que Debary ait utilisé le mot de symbiose sans citer Franck. Bon. Lui, il parle de l'union de deux organismes qui donne une forme propre, c'est le vivre ensemble. C'est pourquoi on peut recommander de désigner ces cas sous le terme de zumbiotismus, une relation où le parasite se soucie aussi de la nutrition de son hôte, revêt une autre signification que le parasitisme. Voilà. Ce qu'on pourrait prendre pour des interactions parasitaires, parce que l'un vit sur l'autre, en fait, des fois, ça a une toute autre signification, et dans ces cas-là, on va parler de symbiose. Pour Franck, c'est de la coexistence, oui, mais à bénéfice réciproque. Et il y aura toujours dans la littérature ces deux sens. D'ailleurs, dans la littérature anglo-saxonne, on penche sur le sens large, quelle que soit l'interaction. Dans la littérature francophone, on penche plutôt sur le bénéfice réciproque. En tout cas, il y a une petite phrase de Debary qui fait titre. Debary est évolutionniste, c'est quelqu'un qui cite de temps en temps Darwin et qui n'a pas de problème avec Darwin. Mais il dit Quelle que soit l'importance que l'on, dans ce texte fondateur de la symbiose, hein, il dit, quelle que soit l'importance qu'on accorde à la sélection naturelle dans la transformation des espèces, il est souhaitable qu'un autre champ de recherche s'ouvre à l'expérimentation. D'emblée, il y a cette idée que ce qui a construit la théorie darwinienne, et je ne parle pas du néo-darwinisme, hein, ici je parle du darwinisme de l'époque, c'est pas vraiment tout ce qui se passe. Il entrevoit vraiment les conséquences évolutives de ça, sans les cerner précisément, il dit que ça remanie un peu notre vision de l'évolution. Alors, on va terminer avec un autre grand penseur qui, avant d'être un philosophe politique et anarchiste, a été un biologiste, et publie un ouvrage qui est plutôt un ouvrage de biologie, même si la philosophie commence à percer, qui deviendra le propre de son activité ultérieurement. Kropotkin, disais-je, publie L'entrée d'un facteur de l'évolution, qui est plutôt un livre de tendance biologique, et où il écrit qu'il était persuadé qu'admettre une impitoyable guerre pour la vie au sein de chaque espèce est une affirmation sans preuve, n'ayant même pas l'appui de l'observation directe. Alors, bon, il charrie un peu quand même, mais c'est intéressant de voir que dans les gens qui parlent de coopération et d'entraide entre espèces, il y a une sorte de mal-être avec ce qu'est le darwinisme, sans doute parce que le darwinisme a été essentiellement d'abord fondé sur les autres interactions seulement. Il continue, hein, il dit que l'entraide est autant une loi de la vie animale que la lutte réciproque et qu'elle a probablement une beaucoup plus grande importance. On viendra sur la suite de ce texte tout à l'heure. Bon, et de son côté, Darwin, il écrit, et là ça fait mal parce que ça montre l'incompréhension qu'il a pu avoir au début, il écrit, en deux endroits différents de son livre, que la sélection naturelle ne peut pas possiblement produire aucune modification dans une espèce exclusivement pour le bien d'une autre. Et il écrit plus loin que si on pouvait prouver qu'aucune partie d'une espèce a été formée exclusivement pour le bien d'une autre espèce, ça annihilerait ma théorie, parce que ça ne peut pas être produit par la sélection naturelle. On y reviendra, il y a dans ces deux phrases, qui sont un peu copiées-collées l'une de l'autre, alors qu'elles ne sont pas dans le même chapitre, il y a exclusivité. En fait, tout est là. Mais on va y revenir, quand on lit ça, on n'a pas envie d'aller tripatouiller. Quand on est évolutionniste, on n'a pas vraiment envie d'aller tripatouiller dans des interactions bénéfices réciproques et dans l'entraide, parce qu'on sent que c'est dangereux. Bref, vous voyez que le fossé est creusé, et ce fossé, il va être durable. Pour conclure, j'aimerais conclure sur deux choses. La première, c'est pourquoi c'est si tardif dans l'histoire des sciences. Et la deuxième, je reconclurai sur ce hiatus avec la première approche de l'évolution. Ma première conclusion, pour bien comprendre ce qui va se passer, j'aimerais que vous fassiez un exercice d'introspection autour des dernières fois où vous avez parlé de train. Au café, de préférence. Pas simplement quand vous avez préparé votre emploi du temps. Quand on parle de train en retard. On parle des problèmes avec les trains. D'ailleurs, ce matin, on a discuté le fait que quand tu veux partir de Martigues pour être à 8h à la fac, il faut que tu partes à 6h30. On parle des problèmes avec les trains. Mais en fait, quand même, la plupart des trains arrivent à l'heure et ils roulent. Et ça, on n'en parle pas. On parle des problèmes. Or, la symbiose et le mutualisme font partie des choses qui construisent le fonctionnement ordinaire. C'est une partie du pourquoi ça marche. Et quand on a une approche par le pourquoi ça marche pas, on peut trouver des choses, c'est heuristique, mais on ne trouve pas ce qui marche, ce qui fait que ça marche. Voilà. Et c'est dommage, parce que c'est aussi une autre inspiration pour améliorer le système éventuellement après. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça marche tellement bien, ces histoires-là, qu'on finit par plus les voir, parce qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est le moment où ça déraille. Voilà. Ma deuxième remarque de conclusion, c'est juste pour vous dire, bon, on reste avec une espèce de hiatus à fleuret moucheté entre les évolutionnistes, basés sur la compétition et le parasitisme, ou la prédation, d'un côté, et puis les gens qui font émerger une pensée de la coopération et qui se sentent mal dans l'évolution. Et vous allez voir que des fois, ils se sentent très mal. Maintenant, je vais vous raconter un exemple avant de poursuivre sur l'émergence d'une des symbioses sans doute les plus extraordinaires qui nous soit donné de connaître et la façon dont elle a mis du temps à être reconnue comme une symbiose. Vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est rien moins que l'origine des midi-chlorons de Star Wars. Ça vous oublie quelque chose, les midi-chlorons ? Ah, il fallait revoir Star Wars, alors. Bon, alors ceci est le maïs. Et en fait, quand on regarde de très près les cellules de maïs, on s'aperçoit que dedans, il y a un chloroplaste où a lieu la photosynthèse, et puis des mitochondries, parce que pour faire de l'énergie la nuit, il n'y a pas de lumière, donc il faut respirer. Même les cellules vertes ont des mitochondries, qui sont le lieu de la respiration. Et ces structures-là, figurez-vous, on sait aujourd'hui que ce sont des bactéries qui vivent dans les cellules, qui s'y multiplient, qui sont hérités quand la cellule se divise, et qui sont hérités par le biais des gamètes d'une génération à l'autre. Donc c'est une symbiose permanente, mais en réalité, les organismes comme nous et les plantes ont attrapé la respiration comme on attrape la scarlatine, en attrapant une bactérie, et les ancêtres des plantes ont attrapé la photosynthèse comme on attrape la scarlatine en attrapant une bactérie capable de faire la photosynthèse, qui maintenant est devenue un composant ordinaire des cellules. Mais remettez-vous au moment où ces trucs-là ont été découverts, ils ont d'abord été découverts dans des cellules, donc compris comme des morceaux de cellules. Point. Quand maintenant on est capable, avec l'ADN qu'on trouve à l'intérieur des mitochondries et des plastes, de regarder la position dans l'arbre évolutif, alors ça c'est un vieil arbre parce qu'il y a trois lignées, mais peu importe. Maintenant les eucaryotes sont dans les archées. C'est pas grave. Le maïs, ah, il est quelque part pas très loin de l'homme et des levures, c'est un eucaryote, comme on dit. Bon, voilà. Par contre, les chloroplastes de bactéries sont proches des cyanobactéries. Et les mitochondries de maïs montrent une position proche de bactéries comme les rhizobium, les agrobacterium ou les Escherichia coli. En fait, le maïs, il est à trois endroits dans l'arbre évolutif. Parce qu'il est le produit d'une symbiose entre trois espèces. D'abord, une mitochondrie, dans un ancêtre qui nous est commun avec les plantes, puis avec ce qui deviendra un plaste, mais qui est essentiellement une bactérie photosynthétique. Bon. Alors, cette histoire-là, en fait, dès le début, dès le 19e, dès la fin du 19e, il y a des gens qui, juste après qu'on ait parlé de symbiose, se disent « Oh là là, mais si ça se trouve, ces histoires de plastes, de chloroplastes, c'est des symbioses. » Suivez le raisonnement de Schimper en 1883. S'il est définitivement établi que les plastes ne sont pas formés de nouveau dans la cellule œuf, alors leur situation dans la cellule où ils se trouvent rappelle celle de symbiontes. En fait, ce qu'il dit, c'est si les plastes ils apparaissent pas comme ça à un moment, s'ils ne sont pas assemblés à partir de rien, c'est-à-dire s'ils se forment uniquement par division de plastes préexistants, ben alors ça me rappelle des bactéries qui se divisent. Il dit que peut-être une plante verte n'est-elle que l'union entre un microbe, un organisme incolore et un microbe possédant des pigments chlorophylliens. C'est super moderne comme présentation, sauf que, ben, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, les tenants de ça? Ils vont essayer de cultiver les plastes pour vérifier le postulat de corps, c'est-à-dire les cultiver tout seuls, essayer de les réintroduire, alors on ne sait pas très bien dans quoi, mais dans une cellule qui n'aurait plus de place, ben, ça ne marche pas, parce que quand ils obtiennent des cultures, c'est des contaminants, ça rate totalement. De même, sur les mitochondries, Paul Portier publie en 1915, mais ça sort qu'en 18, un livre qui s'appelle « Les symbiontes », où il montre plein d'images où on voit des mitochondries en train de se diviser. Et il dit, ben voilà, les mitochondries, ça ne se forme jamais des nouveaux, ça se forme toujours par division, une division qui ressemble à la division de bactéries. Et il propose que ce soit des bactéries, que ce soit des symbiotes. Et il met en exergue de son livre que toute synthèse biologique est l'œuvre d'un symbiote vivant, et il décrit à l'intérieur comment les mitochondries sont des bactéries. Alors, les symbiotes, en tout cas les bactéries, oui, mais là où le livre dérive, et c'est là où on s'aperçoit que beaucoup de gens qui citent Portier comme un précurseur ne l'ont pas lu, c'est qu'après, il attaque le problème des vitamines. Et il dit, ben, on ne sait pas très bien ce que sont les vitamines, mais en fait, pour moi, les vitamines, c'est les mitochondries. Si on a besoin de vitamines, c'est qu'on a besoin de remanger régulièrement des mitochondries d'autres choses pour refaire le plein de mitochondries. Donc là, vous voyez que ça, on voit qu'il ne faut pas non plus faire trop d'actualisme. Hein. Il ne faut pas imaginer que les mots utilisés à l'époque cachent les mêmes choses que ce à quoi nous pensons. La suite du livre dérape par rapport à une pensée moderne, mais néanmoins, il voit bien les mitochondries comme des bactéries. Et tout ça, ça va collapser. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à les mettre en culture. Puis deuxièmement, dans les années 20, 30 et 40, on va avoir des gens comme Calvin qui vont établir comment fonctionne le chloroplaste, du fameux cycle de fixation du CO2, le cycle de Calvin, et puis Krebs va établir, avec son fameux cycle de Krebs, comment fonctionne la mitochondrie. Mais dans le détail, ce qu'il montre, c'est que ces cycles sont profondément connectés au reste de la cellule. Il y a des molécules qui rentrent dans le cycle, d'autres qui sortent, c'est connecté notamment, dans les deux cas, à tout le métabolisme des acides aminés. Bref, en fait, fonctionnellement, ce n'est qu'un morceau de la cellule. Et cette unité fonctionnelle va faire que c'est plus nécessaire de chercher une dualité d'origine. On sait aujourd'hui que cette unité fonctionnelle est secondaire, mais à l'époque, elle est vue comme du béton et comme la preuve que ce n'est pas la peine d'aller chercher une dualité d'origine, puisque c'est une seule chose, fonctionnellement. Et d'ailleurs, dans un livre, la cellule développement et hérédité, un livre qui est le livre de biologie moléculaire et cellulaire des années 20 aux années 50, Edmund Wilson dit que cette théorie microbienne de l'origine des plastes et des mitochondries est parfaitement infondée. Il a raison, parce que quand on essaie de la mettre en culture, ça ne marche pas. Donc il y a n'a pas de fondement. Et il dit que de telles spéculations peuvent paraître trop fantaisistes pour être abordées dans une société de biologistes respectables. Donc en gros, ça veut dire qu'on se calme, c'est pas un truc très très... Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit à l'oral de la Grèce en 1991. On m'a exactement dit ça. Hein. Bon, sauf que là, c'était un peu tard. On va voir qu'en 1991, normalement, d'aucuns auraient dû savoir que la page avait été tournée. Et alors, il est bon, ce livre. D'abord, parce qu'il est écrit dans un anglais riche, c'est-à-dire tout le contraire de l'anglais que moi et mes collègues, on manipule en science. Et il est plein de points de doute et de questionnement. C'est vraiment un manuel remarquable. Il dit, toutefois, il n'est pas impossible qu'elle soit un jour considérée plus sérieusement, c'est-à-dire qu'avec d'autres outils, on arrive à avoir une bonne preuve. Donc cette théorie est enterrée entre 1920 et 1960. On sait que ça existe, mais voilà. Morgan, le père de la théorie chromosomique de l'évolution, dit que le cytoplasme peut être ignoré génétiquement. Alors il a tort, parce que à partir des années 60, on va avoir des preuves que non seulement il n'a pas été ignoré génétiquement parce qu'il y a de l'ADN dans les mitochondries et les chloroplastes, mais en plus, il y a plein d'autres preuves qui vont permettre à quelqu'un comme Lynn Margulis de publier des articles, puis un livre en 1970 de base, où elle montre l'origine microbienne des plastes et des mitochondries. Elle montre aussi dans le livre, et c'est là qu'on voit de nouveau que la façon dont nos anciens voient les choses n'est pas la façon dont nous le voyons nous, elle montre aussi que les flagelles sont d'anciennes bactéries. Les flagelles des cellules qui en possèdent. Mais ça, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas d'anciennes bactéries. Enfin, aujourd'hui, on considère que... Ça ne veut pas dire que demain, on n'aura pas une autre idée de ça, mais pour l'instant, en tout cas, Lynn Margulis, elle défend que plusieurs compartiments de la cellule sont d'origine microbienne, notamment la mitochondrie et le plasme. Et pour ça, elle a le fait qu'il y ait de l'ADN, elle a aussi la microscopie électronique qui révèle une double membrane qui fait penser à quelque chose qui aurait été emballé par la cellule, c'est-à-dire qu'il y a sa membrane propre, puis une membrane dite de phagocytose, d'internalisation. Elle a aussi des parallèles avec l'ultrastructure des bactéries qu'on commence à connaître, des bactéries libres. Elle a aussi le fait qu'on commence à connaître le métabolisme des bactéries libres et qu'on s'aperçoit que le cycle de Krebs, c'est un truc de bactéries, le cycle Calvin et la photosynthèse, c'est un truc de bactéries aussi, et que ça fonctionne pareil. Et puis elle a pour elle, je disais, ses génomes, et elle va commencer à être capable, enfin c'est pas elle qui le fait là, hein, c'est Dayhoff un peu plus tard, en 1970, mais on peut commencer à faire des comparaisons de séquences. Alors ce qu'on compare, c'est surtout la séquence des protéines à l'époque. Mais on va être capable de faire des arbres évolutifs des bactéries où on s'aperçoit que les chloroplastes tombent dans les cyanobactéries et que les mitochondries tombent dans des bactéries du type Rhodospirillum et autres. On commence à faire des arbres évolutifs et les premiers arbres évolutifs basés sur l'ADN montrent des parentés que ne révèlent pas toujours la forme et l'intuition. Bref, avec tous ces arguments, elle dresse un panorama d'une origine microbienne des mitochondries et des plastes en particulier. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez qu'une théorie est d'abord vraie, puis fausse, puis vraie. Quand les outils changent, les outils réellement font plus que nous montrer la réalité. Ils nous proposent des points de vue sur le réel qui sont changeants et ils ne sont pas neutres par rapport à la conclusion qu'on tire. Et en changeant d'outil, on peut changer de conclusion. C'est ça que ça raconte. Et ça rend plein d'humilité parce qu'il y a donc clairement des choses fausses aujourd'hui qui seront vraies demain. Voilà, ça s'est rangé. La deuxième chose, c'est qu'on dit le maïs, mais quand même, on a trois lignées. Hein, et voilà. Et d'ailleurs, ça ennuie un petit peu Lynn Margulis qui, dans son ouvrage de 70, va attaquer encore le darwinisme et dire que le darwinisme, il est anthropomorphique et d'un intérêt limité. Dans une interview de 85 à Magazine Science, elle ira encore plus loin en disant que c'est un truc de macho construit dans un pub anglais, dans un club anglais. Et qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour la biologie moderne. Alors, en fait, il y a au moins un hiatus, c'est que Darwin, il pense en arbre. Hein, il pense spéciation par divergence, une espèce en donne deux. Or, elle, ce qu'elle a vu, ça c'est un des dessins qu'il pense en termes d'arbre, hein, mais ça, c'est la seule représentation de l'origine des espèces, la seule illustration de l'origine des espèces, où on voit très bien qu'au cours du temps, les espèces donnent d'autres espèces, ou s'éteignent d'ailleurs. Mais pour Darwin, il y a deux mécanismes pour l'espèce, c'est un donne deux, ou 1 donne 0. Et ce que voit Lynn Margulis, elle, c'est 2 donne 1. Les anciens des mitochondries, les cellules hautes donnent nous. Vous rajoutez un plasme, ça donne le maïs, vous y êtes. Elle veut de la fusion. Alors, ça explique son ressenti, qui est peut-être un petit peu violent, parce que Darwin rend quand même compte d'autres phénomènes évolutifs pour lesquels, effectivement, ça marche. Hein. C'est la synthèse qui sera intéressante plus que le reste. Et nous, on en reste sur cette idée que ce qu'on appelle le maïs, en fait, c'est une symbiose déjà. Ça montre la force de la symbiose comme moyen de fabriquer des nouvelles espèces et de fabriquer des nouvelles lignées évolutives. Voilà. Les lichens, aujourd'hui, on dit que quand on voit un lichen, il y a une algue et un champignon. Quand on voit le maïs, on dit le maïs. Alors ça, c'est un truc de pure convenance. Là, on a décidé qu'on n'allait plus garder l'espèce mitochondrie, l'espèce plaste et l'espèce hôte, mais qu'on a dit, ouais, ils sont tout le temps ensemble, je vais les appeler par le même nom et dire que ça, c'est une espèce. Mais c'est tout à fait arbitraire. C'est un des moments par lesquels on voit très bien que la notion d'espèce, bah, c'est une représentation, c'est pas la réalité. Pourquoi ? Parce que dans le lichen, on a décidé que le champignon et l'algue étaient distincts et on leur donne un nom à chacun. Même si usuellement, c'est plutôt le nom du lichen, c'est celui du champignon, mais il y a une algue qui a un nom. Et d'ailleurs, les plastes et les mitochondries des algues, bah non, leur nom est compris dans celui de l'algue. Les mitochondries du champignon, leur nom est compris dans celui du champignon. Vous sentez que c'est un des moments par lesquels on sent le côté arbitraire de la notion d'espèce. Hein. C'est qu'il n'est qu'une représentation du réel, mais pas le réel. Voilà pour le maïs. Et voilà pour cette partie où on voit bon, que c'est difficile d'imposer la notion de symbiose et que surtout ça dérape encore en combat avec les évolutionnistes dans certaines bouches ou sous certaines plumes. Et il y a un vrai paradoxe de la coopération. Je vais vous parler deux secondes de mycorhizes, c'est ce sur quoi moi je travaille en recherche. Les mycorhizes, vous voyez, c'est des interactions entre des champignons du sol et des racines des plantes qui font un organe mixte qui est du champignon mélangé à de la racine. Il y a des pénétrations intercellulaires des filaments du champignon. Et ça, c'est quelque chose où la plante nourrit le champignon en sucre et en vitamines, tandis que le champignon va faire les courses avec tous ces filaments qui sont dans le sol et rabat l'eau et les sels minéraux pour la plante. En plus, il y a des effets de protection réciproques. Bon. Alors, vous remarquez déjà qu'il y a un coût pour les partenaires et qu'il peut y avoir une tentation évolutivement de diminuer les coûts pour augmenter le bénéfice qu'on tire de l'association. Donnez moins de sucre, donnez moins de sels minéraux. J'y reviendrai. Regardez un petit peu ce qui se passe ici quand on donne à du trèfle des quantités variables de phosphate. Alors, vous voyez, on peut ne pas ajouter de phosphate ou en ajouter plus ou moins dans le sol. Et on voit que plus il y a de phosphate, moins il y a de champignons dans les racines. C'est normal, hein, la plante arrivant à se nourrir seule, c'est beaucoup moins coûteux que de nourrir un champignon pour aller faire les courses. Donc on voit que l'interaction diminue. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne. Quand on regarde la croissance de la plante, alors soit on la fait croître dans ces sols plus ou moins riches en phosphate en absence de champignons, c'est en rouge. Vous voyez que plus on met de phosphate quand il n'y a pas de champignons, plus ça pousse. Soit on la fait pousser dans des sols plus ou moins riches en phosphate et eh bien, on a du champignon et on regarde comment ça pousse. Ben, on voit que même quand il y a du champignon, plus on met de phosphate, plus ça pousse. D'accord, ça va ? Donc comme ça, on voit très bien que quand on ajoute du phosphate, ça se passe mieux qu'il y ait du champignon ou pas. Sauf que dans le détail, on voit que quand il n'y a pas de phosphate ajouté, qu'il y a juste le peu de phosphate qu'il y a dans le sol, ça augmente la croissance de rajouter un champignon. Quand il y a beaucoup de phosphate, il est devenu un parasite. Ben oui, ça pousse moins bien. Donc vous voyez que l'interaction peut se passer mal, notamment quand il y a beaucoup, quand le milieu est riche. Et on va essayer maintenant de présenter à une espèce de champignon qui s'appelle Glomus explicatum. On va lui présenter, vous voyez, en ligne, plein d'espèces de plantes différentes. On va faire pousser ces plantes soit sur le sol stérilisé, soit sur le sol où on a rajouté le champignon et donc elles font la mycorhize. Et on va comparer la croissance en présence du champignon à la croissance sans champignon. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est zéro la croissance sans champignon, par référence. Souvent, on a une augmentation de croissance de la plante. Mais souvent, il y a des plantes, ça ne marche pas. On a moins de croissance. Alors c'est intéressant parce que ça montre que tous les couples ne marchent pas et qu'effectivement, dans l'interaction, il peut y avoir des organismes qui utilisent l'interaction sans réciproque ou sans intérêt pour le partenaire. Et du coup, on plonge dans le parasitisme. Attention, c'est différentes plantes avec le même champignon. On appelle tricheurs les parasites qui sont des parasites dans le contexte de ce qui devrait être un mutualisme. Par exemple, un insecte qui mange le nectar sans polliniser, on parlera de tricheur. C'est les parasitismes qui se développent dans le contexte d'une interaction mutualiste. Alors, petit exemple de tricherie, il existe des poissons et des crevettes dans les écosystèmes coralliens qui nettoient les gros poissons. Ils en nettoient la bouche. Ça, ils retirent les déchets et les parasites. Regardez bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde pense que la murène a essayé de manger la crevette. Et en fait, c'est pas vrai, parce que les murènes, ça ne mange pas de crevettes. La crevette, qui a une interaction normalement mutualiste avec la murène en mangeant les déchets, en tirant les parasites, elle a essayé de se tailler un beefsteak de gencive. Oui. Vous voyez qu'il y a deux façons de tricher. Soit vous abusez du partenaire, Soit vous lui donnez rien. Vous pouvez même faire les deux. Il y a deux sources de tricherie. Il y a des individus dans l'espèce de mutualiste qui peuvent tricher, mais il y a aussi des cas où une autre espèce s'introduit dans le mutualisme et utilise le bénéfice sans rien donner. Donc les tricheurs peuvent apparaître dans l'évolution dans d'autres espèces ou dans l'espèce mutualiste. Bien. Et ça, quand on a des tricheurs et des altruistes, ceux qui coopèrent, on les appelle comme ça, et qu'on imagine qu'ils recueillent chacun les mêmes ressources du partenaire, ben on s'aperçoit que si vous consacrez une partie de votre énergie à coopérer, vous avez vu que la coopération a un coût, ça ne marche pas. Vous avez beaucoup moins pour vous reproduire. Si vous consacrez tout à la reproduction et que vous ne coopérez pas, vous reproduisez plus. La prédiction, c'est que chaque fois qu'un truc un peu plus tricheur apparaît, il fait plus de descendants. Donc il envahit le système. Donc le mutualisme doit collapser. Alors ça ne marche pas, évidemment, puisqu'il y a des mutualismes. Il faut qu'on comprenne pourquoi, qu'est-ce qui résiste à l'apparition de tricheurs. Alors, une des explications que donne Kropotkin, c'est que l'entraide a beaucoup plus d'importance parce qu'elle favorise le développement de caractères propres à assurer la conservation et le développement de l'espèce. Elle produit avec moins d'énergie une plus grande somme de bien-être. En gros, ce que dit Kropotkin, ça s'appelle de la sélection de groupe. C'est-à-dire les groupes qui coopèrent marchent mieux que les groupes qui ne coopèrent pas. Et ça, c'est un truisme. Dire dans une Europe où tout le monde travaillerait ensemble, ça irait bien mieux que si tout le monde tire à eux et à dia. Le vrai problème, c'est pas que les systèmes qui coopèrent marchent mieux que ceux où il y en a qui trichent. Le problème, c'est comment empêcher l'apparition d'un tricheur. Puisqu'on vient de le dire, il va se reproduire plus puisqu'il coopère moins. Vous y êtes ? Donc, cette sélection de groupe ne sert à rien. Elle raconte que si tout marche bien, alors tout marche bien. Et ça, on s'en fout. La question, c'est pourquoi les tricheurs n'émergent-ils pas ? Et pourquoi on ne tombe pas dans cette catastrophe ? Et pourquoi, finalement, comment on peut arriver à contourner ce qu'a dit Darwin ? Et ce qu'a dit Darwin, j'insiste là-dessus, c'est qu'un trait qui est exclusivement profitable à une autre espèce ne peut pas être sélectionné. Pourquoi ? Imaginons que cette espèce coopère avec celle-là et j'ai un trait génétique qui fait que je vais aider cette espèce à se reproduire. Va-t-elle se reproduire plus ? Oui. Est-ce que ce trait-là va se reproduire plus ? Sauf si indirectement ça lui profite. Mais si ça ne lui profite pas, je vais aider ça à se reproduire sans reproduire le trait qui aide à se reproduire. Vous y êtes ? Il faut que le trait soit porté par ce qui engrange l'avantage évolutif. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Je vous propose 4 solutions dont je ne détaillerai que certaines. La première, c'est qu'en conditions stressantes, il vaut mieux coopérer. Et là, on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez que quand il n'y a pas beaucoup de phosphate, c'est rentable. Quand il y a beaucoup de phosphate, chacun peut le faire de son côté. En fait, plus il y a de ressources, plus la compétition, ça marche. Parce qu'on a beaucoup de ressources, et en particulier, on peut faire la guerre avec les voisins. Petit exemple sur la coopération entre les plantes. Alors, je vous présente ici une méta-analyse d'expérience de défrichement réalisée soit en plaine, soit en très haute altitude. Alors, c'est un très très gros travail de 2002, mais qui est remarquable. Quand on est et on regarde pour la plante focale, autour de laquelle on retire toutes les autres espèces, on regarde le pourcentage de plantes qui se reproduisent. On voit qu'en plaine, quand on retire les espèces voisines, la plante se reproduit plus. Ça s'appelle défricher, c'est ce qu'on fait en agriculture. Quand vous êtes en altitude, où il y a des stress thermiques, où il y a du vent, et où il y a beaucoup plus à manger dans le sol que de gens qui sont capables de se développer, parce que le problème, c'est de supporter le froid, c'est de supporter les forces d'éclairement, c'est de supporter le vent, là, quand vous retirez les voisins, il y a moins, vous annulez la capacité à se reproduire. Donc, dans certaines circonstances, il y a tellement de ressources pas utilisées parce qu'il y a du stress qui limite le développement, que c'est pas grave de coopérer, puisqu'il n'y a pas de compétition pour les ressources limitantes. Le problème, c'est la gestion du stress, et non pas le partage de l'azote ou du phosphate. Ça, c'est bon, il y en a assez. Vous y êtes ? Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on retrouve cette idée de Kropotkin que le tien et le mien, l'appropriation et le non-collectif, sont beaucoup moins stricts parmi les pauvres que parmi les riches. Les pauvres coopèrent plus que les riches. Là, c'est une observation qu'on peut très souvent faire aujourd'hui encore. Deuxième mécanisme, l'hérédité verticale. Je ne vais pas être long, mais il y a des fois on hérite des symbiontes et c'est la seule façon de les avoir. Vous héritez des mitochondries des générations précédentes, les plantes héritent des chloroplastes des générations précédentes. Alors, dans ces cas-là, le nombre de descendants est le même pour les deux. C'est le nombre d'enfants que vous ferez pour vos mitochondries comme pour vous. C'est le nombre de graines que fera le maïs pour ses chloroplastes comme pour lui. À ce moment-là, si jamais un des partenaires abîme l'autre, ben, du coup, ils feront moins de descendants et les deux seront perdants. C'est un peu comme la dynamique du cancer. Ça va marcher à court terme, une mitochondrie qui se surdéveloppe en exploitant les cellules hôtes, elle va effectivement proliférer, elle va gagner quelques temps, mais rapidement, en détruisant son hôte, elle va détruire la capacité à se transmettre qu'elle aurait. Donc l'hérédité verticale, c'est tout de même pas toujours le cas. La deuxième chose, c'est que les symbioses ne sont pas toujours coûteuses. Il y a des symbioses où l'un récupère les déchets de l'autre. Vous avez d'ailleurs vu ça pour le cas du poisson clown. Le caca d'anémone contre l'urine de poisson, les coûts sont sans doute pas élevés. Hein. Mais il y a un très bel exemple de ça qui est lié aux bactéries qui fabriquent du méthane. Ces bactéries ont besoin d'hydrogène et fabriquent du méthane comme déchet d'une réaction entre l'hydrogène et le CO2 qui fait leur énergie cellulaire et qui leur permet de faire leur biomasse. Les bactéries méthanogènes, elles trouvent cet hydrogène auprès d'autres bactéries qui fermentent de la matière organique. C'est ainsi que la méthanogénèse se produit dans le tube digestif des ruminants ou dans des digesteurs où on entasse à l'abri de l'air énormément de matière organique. Alors, la première, donc, ça c'est plutôt une archée, hein, pour être très exact, qui fait ça, et elles vivent associées à des E-bactéries qui fermentent la matière organique avec une fermentation en absence d'oxygène, donc qui donne du H2. Or, le H2 est toxique pour ce métabolisme. Donc, c'est un déchet qui devrait empêcher ces bactéries de vivre. Elles vivent toujours scotchées à ces archées qui, en utilisant le H2, retirent la substance qui est toxique pour leur métabolisme. Et de la même façon, alors donc on voit que plus l'archée est en forme, plus le bactérie se porte bien, et inversement, on voit que l'archée se porte d'autant mieux que le bactérie se porte bien, puisque c'est elle qui lui fournit à manger. C'est intrichable, ça. Le premier mutant qui abîme le système, il marchera moins bien et il est éliminé. C'est intéressant, parce que ça veut dire que quand on est assez différent, on peut plus facilement coopérer. Quand on a vraiment des métabolismes complètement différents, de telle sorte que les produits, les déchets de l'un sont des ressources de l'autre, là, la coopération est plus facile. C'est plus difficile de coopérer quand on se ressemble, parce que là, ben, on finit par avoir les mêmes besoins. Bon, et maintenant, j'aimerais insister sur le dernier point, qui est le mécanisme de sanction. Alors, vous vous souvenez que des fois, ça se passe mal. Comment les plantes font dans le sol pour trouver les bons champignons, sachant que des fois, un champignon donné n'est pas profitable. Alors, dans cette expérience, on fait pousser deux champignons, l'un en présence de phosphate, l'autre en l'absence de phosphate, et ces champignons peuvent aller coloniser des racines d'une plante qui reçoit du saccharose radioactif. Et on va voir à qui la racine donne son saccharose, et on s'aperçoit qu'elle le donne plutôt aux champignons capables de lui donner du phosphate que aux champignons incapables de lui donner du phosphate. Renversons la logique. Prenons un champignon qui a du phosphate radioactif et qui peut sortir de sa cellule pour aller coloniser des racines possédant du saccharose ou pas. De façon pas étonnante, ce champignon donne son saccharose plutôt aux champignons, donne son phosphate plutôt aux champignons qui ont du saccharose qu'aux champignons qui n'en ont pas. En fait, dans la nature, il y a le choix. Et tout à l'heure, dans l'expérience précédente, on a un peu forcé la plante à s'associer au seul champignon disponible. Mais dans la nature, il y a le choix, et en fait, les plantes et les champignons essayent toutes les combinaisons possibles. Ils s'associent à tout ce qui passe, et ils ne maintiennent l'interaction, ils ne la rendent durable que quand c'est profitable. Tout à l'heure, on a fait le raisonnement de dire, regardez, que l'altruiste et le tricheur recevaient autant. Mais en réalité, dans l'évolution, l'existence de tricheur a sélectionné les mécanismes de réponse du partenaire qui va donner moins à celui qui triche. Et celui qui triche aura beau essayer de se reproduire plus, comme il a accès à moins de ressources, il se reproduira moins au total que l'altruiste. Et voilà comment l'altruisme a sélectionné des mécanismes qu'on appelle des mécanismes de sanction, qui sont un produit de coévolution et qui font qu'à la fin, on est capable de trier ses partenaires et de restreindre à ceux qui sont utiles. Vous voyez que l'entraide n'est pas une loi de la nature, contrairement à ce que prétend le titre d'un livre qui par ailleurs est remarquable. C'est une construction par-dessus la compétition, la compétition et le parasitisme. Et en fait, tout était dans l'exclusivement. En fait, il faut se débrouiller pour aider les choses qui nous aident. et verrouiller le système. Et là, on résout le paradoxe darwinien. Il est résolu, hein, ce paradoxe darwinien, et aujourd'hui, nul ne songerait, dans les sciences de l'évolution, à nier l'existence de la coopération. Il y a, au contraire, une abondante littérature qui essaie d'étudier ces fenêtres de stabilité. Mais vous voyez, c'est des fenêtres de stabilité. C'est pas une loi de la nature, c'est une construction par-dessus ce que Darwin avait vu en premier. Bon, alors on pourrait presque écrire des livres sur le fait que les organismes ne sont jamais seuls, parce qu'ils finissent au cours de la révolution par avoir ramassé tout un tas de partenaires, notamment quand ils sont pluricellulaires, parce qu'ils sont habitables, physiquement colonisables pour des microbes. Mais au-delà de ça, ce que je voulais vous montrer, c'est ce long chemin qui a conduit finalement à une réconciliation entre la théorie de l'évolution basée sur le parasitisme et la compétition et la pensée sur la coopération, qui est apparue plus tard parce qu'elle était moins intuitive et qui a d'abord paru, bien sûr, en opposition avec les théories qui avaient été seulement montrées sur les autres types d'interactions. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hiatus. Et on sourit en relisant les lignes de Lynn Margulis et ses foucades contre le darwinisme, qui en gros revient à dire que, bah oui, c'est vrai, les auteurs du passé, ils n'ont travaillé que sur les données qu'ils avaient. Comme nous travaillons. Merci.
Doctorant en géographie, j'aimerais bien juste vous poser une question sur la dernière phrase que vous avez dite, qui est que, du coup, la coopération n'est pas une loi de la nature, mais une construction qui se rajoute, du coup, au mécanisme identifié par Darwin. Mais du coup, quelle différence est-ce que vous faites entre une loi de la nature et les constructions et ce genre de construction-là?
Non, mais je suis d'accord que c'est assez verbal comme formulation, mais disons que souvent les gens pensent qu'il y a quelque chose qui pousse les organismes, il y a une force qui les pousse à coopérer. Et en fait, c'est plutôt les circonstances. C'est ça que j'ai voulu dire. Après, c'est vrai que la compétition est quand même une donnée de base, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, quand vous mettez des espèces ensemble, vous trouverez assez souvent une ressource pour laquelle qui leur est commune. Je ne sais pas, par exemple, quand vous prenez les bactéries, là, celles qui fermentent et celles qui font du méthane, elles ont toutes les deux besoin de phosphate. Donc vous avez toujours, mais il y a tellement de ressources nécessaires à un organisme qu'on finit par, quand on prend n'importe quelle autre espèce, trouver un point où, potentiellement, si cette ressource devient limitante, il y aura compétition. Et puis après, il y a toutes ces fenêtres de fonctionnement où ceci est minoré et au contraire, les avantages d'être ensemble finissent par l'emporter. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est que j'ai l'impression, moi, mais ça, je serais ravi d'entendre votre position là-dessus, que la compétition, il y a toujours, et il y a les cas où on arrive à la dépasser, où on peut la dépasser, qui sont fixés par l'environnement ou par le fonctionnement des systèmes biologiques, puisqu'il y avait les deux types de... Et ça, c'est, j'ai l'impression que c'est plutôt secondaire. Voilà, la donnée première, c'est pour moi, hein, c'est la compétition. Mais peut-être que c'est parce que je suis un vieil évolutionniste qui est né d'abord dans le darwinisme, par exemple, travailler sur la coopération. Mais je ne nie pas l'importance de la coopération, puisque on a dit que ça faisait des groupes, enfin, des organismes, des groupes comme le maïs, les plantes, les hommes, les mammifères. Mais je n'ai pas défini loi, donc effectivement, vous pouvez me le reprocher.
Bonjour, Nicolas Montes, écologue. J'aurais une question par rapport à cette inclusion des chloroplastes dans les cellules. Avec le cas d'Elysia chlorotica, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que parce qu'elle intègre vraiment le chloroplaste dans ses propres cellules, elle nous remime en fait ce qui s'est passé, ou ce qu'on peut imaginer qui puisse passer dans l'histoire évolutive?
Alors, là, vous parlez, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'un petit gastéropode qui suce le contenu d'algues à cellules géantes, et en fait, il va mettre dans ses propres cellules les chloroplastes qu'il a aspirés. Et il a d'ailleurs deux grandes ailes qu'il déploie au soleil, hein, deux grandes expansions, c'est un gastéropode sans coquille. Il y a deux grandes expansions qu'il déploie au soleil et il fait la photosynthèse. Mais les plastes finissent par se décomposer, par se dégrader. Donc c'est plutôt du vol de plastes. Le bon exemple, c'est ce qu'on a dans un certain nombre de vers. Alors c'est pas vraiment des vers, hein, mais c'est des trucs qui sont des tout petits vers qu'on a sur la plage, qui sont des vers verts et qui abritent des algues qui sont capables de se diviser à l'intérieur d'eux-mêmes, et eux, ils se mettent juste au soleil pour que ces algues fassent la photosynthèse, ou encore les algues qu'on a dans les anémones ou dans les coraux, où là, c'est vraiment l'algue entière, c'est l'organisme en entier qui est présent et qui peut se multiplier. Parce qu'il y a ça. Il ne suffit pas que ce soit rentré dans les cellules, il faut que ça se multiplie après. Donc, ça, c'est plutôt un exemple de ce qu'on appelle de cryptoplastie, c'est du vol de plastes, et on les fait fonctionner un peu pour qu'ils se chargent bien d'amidon avant de les bouffer, finalement. Mais ils n'ont aucun avenir. Et de toute façon, ils n'auraient pas d'avenir, parce que ces plastes, ils ont été volés à des cellules qui leur sont nécessaires pour fonctionner. Le bon exemple, voilà, c'est des trucs comme ça, où les paramécies qui ont pris des algues, ou voilà, et où vraiment, ce qui est internalisé garde la capacité à se multiplier.
Du coup, on n'est plus dans le chloroplaste en tant que tel qu'il a été décrit dans l'association symbiotique, où il rentre dans la cellule végétale.
Alors, on est au bord de ça. C'est ça qui, en évoluant, va éventuellement, dans certains cas, donner un plaste. Sachant qu'on appelle plaste... Alors, comment fait-on la différence entre une cellule qui contient des cellules photosynthétiques et une cellule qui contient un plaste? Alors là, il y a une proposition de définition qui est couramment admise. Après, on peut la... Les définitions, c'est ni vrai ni faux. Quand vous arrivez à cultiver ou à ressortir votre organisme, c'est qu'il a gardé son autonomie, hein, votre action. Alors, par contre, les plastes, on n'y arrive pas. Ou alors, il faut des milieux très très compliqués. En fait, on est un plaste quand on a commencé à perdre certains gènes nécessaires à la vie, qui sont remplacés par des gènes contenus dans le génome de la cellule où on se trouve. Et ça, c'est la ligne rouge qu'on propose souvent pour la différence entre le fait d'avoir des algues en symbiose dans la cellule et le fait d'avoir des plastes. Et ça s'est produit, en fait, en réalité, plusieurs fois dans l'évolution de cette histoire. Bon, c'est arbitraire la définition, ça peut se contester.
Alors peut-être pour tenter de faire le lien avec ce qui s'est passé hier soir, même si je n'étais pas là, j'aimerais... hier soir, il y avait une table ronde autour de la NPR. Et là, tu viens de nous parler de coopération et de compréhension du mécanisme qui permet d'aboutir à ça. On a quand même un directeur du CNRS qui a dit que la recherche devait être darwinienne, dans le sens compétitif. Tu nous montres que la coopération est quelque chose qui peut évoluer quand plusieurs partenaires, les partenaires en tirent un bénéfice, ou direct ou indirect. Et moi, j'aimerais t'entendre, comme tu as quand même un passif de chercheurs et un chercheur qui collabore, qu'est-ce que tu penses qui est dans la recherche entrave ou facilite la coopération entre chercheurs? Est-ce qu'on peut s'inspirer des théories qu'on a élaborées pour essayer de rendre un peu les choses plus collaboratives et moins compétitives?
Alors, il y a plein de choses à dire pour ce que tu as dit. Bon, la première, c'est que moi, dans mon expérience de chercheur, hein, autour des modèles mycorhiziens, j'ai tout le temps cherché à agréger d'autres gens qui venaient d'autres sous-domaines disciplinaires avec d'autres outils. C'est comme ça qu'on s'est mis successivement à la chimie isotopique, à la transcriptomique, à la métabolomique à haut débit, alors que moi, je ne maîtrise pas du tout ces trucs-là. Donc, j'ai toujours pensé que la coopération, c'était la façon d'avoir des perspectives et des outils nouveaux sur les objets qu'on étudiait. Donc, pour moi, ça a toujours été de l'oxygène, la coopération. Et le fait que j'ai été associé à de nombreuses, et que je sois encore associé à de nombreuses universités à l'étranger, c'est le produit de ça. Donc, pas de problème pour moi, la recherche, elle est coopérative quand elle est belle, et quand elle est compétitive, ça n'empêche pas de faire des beaux papiers, mais je pense qu'on en fait moins souvent. Ouais. Maintenant, quand on essaie juste de monter son équipe, et on n'est pas en lien. Alors maintenant, Antoine Petit, le bien nommé, a quand même ses lectures, elles datent, hein, parce que le darwinisme qu'il nous décrit, pardon, mais ce que je vous ai raconté quand même, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font de l'évolution, ils ont bien compris que la coopération, ça existe, et que, certes, la concurrence est une donnée de base, mais on peut construire d'autres choses où finalement la concurrence se trouve réduite. Alors c'est vrai que la pauvreté de financement auquel on est soumis nous conduit dans des conditions de stress, ou peut-être effectivement on favorise la coopération, peut-être que c'est ça l'idée. Non, pour être plus sérieux, c'est ridicule. Et à un moment, il faut quand même dire les choses en face, on s'aperçoit qu'on n'a plus de grands scientifiques à la tête du CNRS. C'est ça que nous a dit Antoine Petit. C'est qu'aujourd'hui, on a de la valetaille du politique. Ça, c'est rangé. Il fallait le dire. Valetaille du politique. Bon, alors, revenons à ce qui nous intéresse. Vous comprenez que, finalement, la coopération, ça ne vient pas tout seul, ça s'organise. Et là, en fait, il y a une dimension morale quand on revient au champ sociétal et qu'on reprend... la coopération dans le sens intraspécifique, moi que j'ai pas abordé, et pour lequel il y a d'autres mécanismes de stabilisation, c'est encore plus compliqué, mais on peut notamment mettre en place des règles qui favorisent la coopération. Donc, je suis désolé, ce que nous a dit Antoine Petit, c'est pas une réalité, c'est son option d'organisation du mouvement. Pardon, mais moi j'en ai une autre. Et j'ai fait ma carrière comme ça, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle d'ailleurs qui ont envie d'imaginer une recherche purement basée sur la compétition. Parce que ça va marcher, il y a des beaux papiers qui vont sortir, mais je ne suis pas sûr que nos impôts... Il faut rappeler un truc, c'est que la compétition, c'est une interaction moins-moins. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui passe à faire des trucs que font les autres parce qu'on ne sait pas qu'ils le font et qu'on veut le publier en premier, donc on ne le publiera pas, donc cet argent est perdu. Il y a de l'argent longtemps qui passe à emmerder les autres. Alors c'est vrai que dans le domaine scientifique, bon, à part dans les histoires de reviewing, ça n'existe pas trop, mais je vous rappelle, pour dire un truc, c'est important, c'est pas bien, hein. Les Français, ils payent 500 euros par an de pub dans leurs achats, dispersés dans leurs achats de chaussures et de nourriture. 500 euros par an. C'est ce que coûte la publicité, qui est en quelque sorte l'équivalent des antibiotiques pour les microbes dans l'activité économique. La pub, c'est la façon d'emmerder les voisins. Mes chaussures sont plus belles que les tiennes, mes choux sont plus beaux que les tiens. Ça commence en gueulant sur le marché, alors ça coûte que de l'énergie humaine, mais ça finit par la pub qui a un coût. Vous voyez que ça abîme le fonctionnement des choses, la compétition, par définition, puisque c'est une interaction réciproquement négative. Ça, il va falloir quand même diffuser cette idée-là. Parce que quelque part, la compétition, ça fait que quand vous mettez un euro dans un dispositif, il y a une partie qui sert juste à faire de la compétition et qui ne sert pas à faire ce que vous voulez acheter. Or, quand je suis politique et que je paye la recherche, je veux qu'il y ait des résultats. Il faut vraiment une vision naïve du système pour penser qu'en faveur de la compétition, je vais tirer le maximum d'argent. Alors, l'équivalent de la pub pour la recherche, quand même, on pourrait dire, c'est la NR. Parce que, quand vous dites, il n'y a pas beaucoup d'argent, il va falloir choisir à qui on le donne, il faut payer une institution qui regarde. Et ça vous coûte cher. Hein. La Cour des comptes a quand même dit 2 euros en recherche, 1 euro à la NR. La Cour des comptes, ce n'est pas des anarchistes, Kropotkin. Hein.
Bonjour, merci. Alors moi, je suis un béotien, je suis socio-anthropologue, donc dans un autre monde. Mais les travaux de pas mal de mes collègues, notamment les Charles Pinceau, ont montré à quel point, et d'autres, les plus riches dans nos sociétés coopèrent beaucoup et entretiennent une solidarité de classe, alors que les plus pauvres, actuellement, sont bien en mal, ne serait-ce que de se reconnaître dans la même identité. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans le raisonnement passionnant que vous avez développé?
Alors, c'est moi, Claire, qui c'est à mon tour d'être le béotien de la remarque que vous venez de faire. Et d'ailleurs, là, il ne faut pas imaginer qu'effectivement, il suffit d'être pauvre pour coopérer, d'être riche pour ne pas coopérer. C'est là on a des couches culturelles qui se superposent là-dessus et qui font que, un, bon, on a nos penchants biologiques, mais il n'y a pas que ça, et que finalement, on peut se trouver riche avec une envie de partager, parce que, par exemple, on est vraiment pénétré d'un idéal catholique de base, ou d'un idéal marxiste base. Hein. Bon, moi, j'ai des parents riches, partage. Voilà. Et quand même, ils ont donné les trois quarts de leur fortune, de leur vivant, à des opérations caritatives. Bon. Alors justement, ce trois quarts, pourquoi je vous dis ce trois quarts? Parce que c'est vrai que Bill Gates, par exemple, il donne beaucoup d'argent à des dispositifs d'entraide. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on normalise ça par la ressource disponible, déjà. Je ne sais pas si le travail que vous citez normalise et dit, au-delà du nombre, du fait qu'effectivement, les gens riches ont plus d'argent que les gens pas riches parce qu'ils n'ont pas d'argent à donner, est-ce que, en pourcentage de la ressource disponible, quel est le profil entre des gens à faible ressource et à forte ressource? Et sachant que pour les gens à faible ressource, ce ne sera pas forcément du cash, ça pourra être de l'aide physique. Voilà. C'est une question très difficile, là, ça commence à devenir super dur. C'est l'effort relatif. Du coup, c'est moi qui retourne la question, comme ça m'évite de répondre. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait des correcteurs culturels qui pouvaient expliquer que j'ai rien prédit de ce qui se passe vraiment dans la sphère humaine. Hein, je l'admets parfaitement. Et l'autre chose, c'est l'effort relatif. Moi, je ne donnerai jamais 2 milliards, mais je pense avoir donné un bon pourcentage de ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? La question, c'est le pourcentage.
Moi, je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai encore plusieurs questions, mais n'hésitez pas. Alors, j'en ai une parce que tu nous as montré, notamment par l'éclairage de l'histoire des sciences, comment des mots issus de la société humaine interpénètrent le champ scientifique et deviennent finalement source de, éventuellement de conflits
On n'est pas d'accord sur ce que veut dire mutualisme, par exemple. On ergote sur ce que veut dire symbiose, etc. Et en même temps, qu'est-ce que tu penses du fait, par exemple, d'utiliser le terme de tricherie ? On l'utilise très couramment dans nos cours, je l'utilise, il y a zéro critique, mais on utilise encore aujourd'hui beaucoup de vocabulaire. Je pense qu'on l'utilise pédagogiquement, on l'utilise à des fins réelles.
Si c'est dans nos cours, on l'utilise bien.
Voilà, c'est sûr. Non, mais l'idée, c'est qu'on véhicule aussi à travers ça tout un champ hérité de ce que peut dire, de ce que peut vouloir dire trichy pour tout un commun, tout un chacun, et c'est pas forcément la même chose. Et ça, peut-être que ça amenuise la qualité de ce qu'on définit, à savoir simplement, bah, je suis un champignon, on donne du phosphore, la racine me transfère moins de choses. Et peut-être qu'on devrait aussi avoir plus de justesse et moins d'exploitation de ce vocabulaire-là, parce qu'on court le risque de charrier des choses qu'on ne veut pas forcément charrier et qui... subjectivise un propos qui, à la base, est objectif.
Alors, mais c'est vrai, donc, effectivement, c'est pour ça que je remettais cette diapo, parce que là, il y a altruistes, tricheurs, qui ont des sens bien avant qu'ils soient utilisés en biologie évolutive, hein, pour désigner des stratégies par rapport à la coopération. Et d'ailleurs, même le mot stratégie, c'est de nouveau un mot qui est employé... ça a d'abord été des stratégies politiques et militaires avant peut-être des stratégies écologiques ou biologiques. Bon, donc, le fait, il est là. C'est que les mots, ils finissent par migrer. Mutualisme, c'est dans un sens, altruisme, tricheur, c'est dans l'autre sens, autre chose. Aujourd'hui, en économie, on parle beaucoup d'économie symbiotique. D'ailleurs, si je suis rigoriste par rapport à mes définitions, c'est souvent l'économie mutualiste, en fait. Il n'y a pas forcément coexistence. Mais peu importe, ça a quand même fertilisé tout un champ de l'économie. Je pense à Isabelle Delannoy et son bouquin, c'est super, quoi. C'est pas exactement ce que moi j'appelle la symbiose, alors ça l'emmerde, d'ailleurs elle m'en veut toujours quand je dis ça, mais... c'est un super livre. Alors, on s'en fout sur les définitions, on ne passe pas sur les définitions. Alors maintenant, la vraie question, c'est réutiliser des mots, est-ce que ce n'est pas dangereux ? Et je vais juste prendre le côté du biologiste, hein. Je vais parler juste de ma discipline. Et je voudrais minorer ça de deux façons. Un, tu pourrais appeler ça du zrobisme et de l'atranécanorisme. Tu pourrais prendre un mot bien grec, bien neutre, bien chiant. Donc déjà, théologiquement, ce ne serait pas forcément génial. Et deuxièmement, tu isolerais le cas où l'altruisme il est en intraspécifique, dans une coopération intraspécifique, parce que, et humaine, de tout ce qui se passerait dans des coopérations intraspécifiques non humaines ou interspécifiques. Alors que c'est le même mécanisme qui se cache derrière un tricheur chez nous, quelqu'un qui ne paye pas dans le train, un peu fraudeur, mais qui ne paye pas, en gros, il utilise le bien commun sans y contribuer. Vous y êtes. Donc, au fond, c'est une facette du même mécanisme. Donc là, on reprend le mot humain en élargissant le sens. Voilà. Ça évite de faire de l'anthropocentrisme en ayant un mot différent quand c'est l'homme et quand c'est des non-hommes. Mais il y a un risque d'anthropomorphisme, évidemment. Mais ce risque, il existe toujours. Il existe toujours. Il va falloir le gérer explicitement, pédagogiquement. Et je vais vous rassurer maintenant. Quand on parle de relations hôte-parasite, personne ne voit l'hôte comme un aubergiste en train de mettre une nappe, des assiettes et des cuillères. Et... mais pourtant, historiquement, l'hôte, c'était ça. En fait, quand on introduit une polysémie ou une extension de sens, au début, c'est dérapant. À terme, c'est plus un problème. Et aujourd'hui, dans mutualisme, personne n'entend plus mutualité ouvrière, mutualité agricole. Vous y êtes ? Ça, c'est important. C'est que ce problème, il n'est que transitoire. Et indépendamment de ce problème transitoire, il y a ce problème qu'il ne faut pas, au prétexte de ne pas faire d'anthropomorphisme, se mettre à faire de l'anthropocentrisme. Et, parce que ça, on l'a fait trop, et ça aboutit à ce que dénoncent des gens comme Descola, ou Latour dans sa période tardive, le fait d'avoir séparé l'homme et la nature, la société et la nature. Si on n'a pas les mêmes mots pour désigner les deux, ça va clairement entretenir cette séparation. Or, ce n'est pas sain. On a vu où ça nous a mené.
On va prendre une dernière question de Johan.
Oui, je voudrais faire le chemin inverse pour aller des plantes et des animaux vers l'humain, et en faisant peut-être de l'anthropocentrisme, l'anthropomorphisme. Est-ce qu'on peut imaginer dans une coopération humaine, en fait, il y a un apprentissage qui se fait entre les collaborateurs, et il y a des relations, il y a un dialogue qui se fait de plus en plus fluide, de la confiance qui s'installe. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans des relations symbiotiques, il puisse y avoir ce même genre de mécanisme ? Est-ce que ça se ferait à l'échelle d'une vie de l'individu ou à plus long terme ?
Disons que ça repose un peu sur la capacité d'intersubjectivité ou de spécularité, si on veut, hein, et sur la capacité d'anticipation, ces choses-là. Donc ça va pouvoir marcher pour certaines espèces qui ont des capacités d'anticipation, on en a, hein, donc chez les corvidés, chez un certain nombre de céphalopodes, on a des formes d'intelligence qui sont associées à la capacité d'anticipation. Mais dans le monde vivant en général, il n'y a pas cette propriété-là. Mais là où elle existe, c'est tout à fait possible. La mémoire me manque, mais il me semble quand même qu'il y a quelques travaux qui montrent... Alors, bon, chez les chimpanzés, ça compte pas, parce que c'est presque nous. Mais je crois qu'il y a des travaux qui montrent chez les cétacés une capacité à reconnaître et mémoriser les partenaires fiables, en intraspécifique. Et en interspécifique, les poissons nettoyeurs, des trucs géniaux sonores. Alors, je vous ai montré des crevettes qui nettoient, mais aussi des poissons qui nettoient. Et ces poissons qui nettoient, bah, c'est pareil, hein, ils peuvent des fois se tailler un bout de chair. Bon. On sait que ces poissons le feront moins si... Alors, ils ont des aires de nettoyage. Des endroits où ils sont, et puis les poissons arrivent pour se faire nettoyer, ils se mettent en position branchie ouverte pour, et bouche ouverte, le poisson nettoie, puis ensuite, quand ils pensent qu'ils sont propres, ils s'en vont. Si la station de nettoyage est peu fréquentée, les poissons trichent moins. Si c'est très fréquenté, ils trichent. Parce qu'il n'y a pas de risque. Alors, par contre, effectivement, c'est lié au fait que les partenaires qui se font nettoyer, s'ils sont niaqués, ils ne revisitent pas ou ils revisitent moins fréquemment la station de nettoyage. Ils en prennent une autre. Voilà. Et en plus, alors, le mieux, c'est si le poisson nettoyeur est observé par un poisson qui est dans la file d'attente, il triche moins que s'il n'est pas observé. C'est des trucs absolument géniaux, mais assez intuitifs. Alors, on ne sait pas la dimension innée ou acquise de ces comportements, mais on a des fois des trucs qui nous rappellent d'autres choses et qui montrent que les mêmes... Parce que ça, c'est moi au marché, avec les différents marchands de légumes. Si je me suis fait filer des légumes pourris, je vais chez un autre marchand de légumes. C'est exactement pareil. Et ça mérite bien d'avoir le même nom, ça s'appelle une logique de... Alors, désolé, hein, de marché. Mais ça mérite bien le même nom, même si ça n'a pas évolué dans les mêmes groupes et pas forcément avec les mêmes processus de prise de conscience ou d'anticipation, parce que peut-être que chez ces poiscailles, c'est juste des mécanismes innés. Ça, on ne sait pas très bien.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer cette conférence.